Et dans Luc, au chapitre 9, à partir du verset 49, Jean prit la parole et dit: Maître, nous avons vu un homme qui chassait les esprits mauvais en ton nom, et nous avons voulu l'en empêcher parce qu'il n'appartient pas à notre groupe. Mais Jésus lui répondit, ne l'en empêchez pas, car celui qui n'est pas contre vous est pour vous. Lorsqu'approchèrent les jours où Jésus devait être enlevé au ciel, il décida fermement de se rendre à Jérusalem. Il envoya des messagers devant lui, et après être partis, ceux-ci entrèrent dans un village de Samarie pour lui préparer tout le nécessaire. Mais les habitants ne voulurent pas le recevoir, parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Quand les disciples Jacques et Jean virent cela, ils dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions au feu de descendre du ciel et de les exterminer ?» Jésus se tourna vers eux et leur fit des reproches. Et ils allèrent dans un autre village. Ils étaient en chemin lorsqu'un homme dit à Jésus « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit « Les renards ont des terriers et les oiseaux ont des nids. » Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse poser sa tête. Et il dit à un autre homme, « Suis-moi. » Mais l'homme lui dit, « Maître, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. » Jésus lui répondit, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre homme encore dit, « Je te suivrai, Maître, mais permets-moi d'aller d'abord dire adieu à ma famille. » Jésus lui déclara, « Celui qui se met à labourer puis regarde en arrière est inutilisable pour le royaume de Dieu. » Seigneur, ta parole est source de vérité, sanctifie-nous par la vérité. Cette semaine, en ouvrant la Bible, sur ce passage, j'ai pris peur, comme à chaque fois, le passage de l'Évangile, qui est l'Évangile du jour. J'ai pris peur et j'imagine que vous aussi, à son écoute, vous êtes comme moi un peu choqué et abasourdi de ce qui pointe chez les disciples, de ce fanatisme qui pointe chez les disciples, qui sont prêts à détruire ceux qui ne leur ressemblent pas, ceux qui ne sont pas avec eux, ceux qui ne pensent pas comme eux. Et je trouve ça terrifiant parce que ce dont on parle là, ce ne sont pas des djihadistes, hein. Ce sont des disciples de Jésus, Jacques et Jean, mais qui sont tout prêts à faire aussi fort que ce qu'on a vu toutes ces dernières années-là, des pleins de Dieu, et qui font assez peur quand ils sont pleins de toutes leurs certitudes. Voilà. Là, il s'agit quand même des disciples, mais quand je dis direct, ce n'est pas des disciples de la deuxième génération, ce sont ceux qui ont marché avec lui. Et c'est quand même étonnant qu'on ait ces paroles-là à cet endroit-là. Et très franchement, pour moi, c'est ce genre de croyant un peu intolérant et plein de certitudes qui font peur, qui interdisent aux gens de s'intéresser à Dieu. Je trouve qu'ils donnent envie de s'en détourner plutôt. Moi, j'aurais été les Samaritains là, j'aurais été ravi de ne pas les avoir accueillis finalement. Et puis j'imaginais aussi l'effet des réponses de Jésus sur ceux qui désiraient le suivre. Comme ces réponses peuvent peut-être nous interroger 2000 ans plus tard, qu'a donc voulu dire Luc en plaçant ces paroles de Jésus ici, à la toute fin de son ministère, puisque nous sommes là dans le dernier voyage de Jésus à Jérusalem. Je me demandais quelles étaient les grandes vérités, alors qu'ils étaient enseignées aux disciples ou à ceux qui voulaient suivre Jésus, et en quoi ces vérités pourraient nous rejoindre dans notre expérience de vie 2000 ans plus tard. Déjà, en tout cas, on l'aura compris, Jésus n'est pas un fanatique. C'est très rassurant. Il n'est pas un fanatique extrémiste qui voudrait absolument avoir raison, être supérieur à tout le monde, être supérieur aux autres. Il n'encourage pas non plus ceux qui le suivent dans leur délire fanatique, au contraire, il calme le jeu, hein. Il calme les disciples. Celui qui n'est pas contre vous est pour vous, c'est plutôt encourageant. Et je crois en fait que Luc a mis ces deux textes ensemble parce qu'ils se rejoignent et qu'ils s'illustrent l'un l'autre. Le rejet des Samaritains, d'un côté, les consignes pour suivre Jésus de l'autre, ceux qui veulent avancer à sa suite, en tout cas, parlent de la même chose. En gros, le message est le suivant. Libérez-vous du passé pour pouvoir avancer libre. Soyez libres de ces héritages du passé, héritages culturels, familiaux, religieux, qui conçoivent, qui construisent, qui édifient des visions du monde et des préjugés sur Dieu, sur les peuples, sur les autres en général. Et justement, Luc place habilement cette histoire de refus des Samaritains entre un épisode où Jean se vante auprès de leur maître qu'ils ont su faire... Ils ont su réduire au silence quelqu'un qui voulait libérer quelqu'un en son nom, et un bon rappel de leur intolérance et de leur violence, donc à la fin de cette histoire, dans la conclusion de cette histoire de quand ils quittent la Samarie. Et déjà, rien que pour ce genre d'attitude, voilà, j'aurais été un Samaritain, je crois que j'aurais eu du mal à rentrer dans une autre dimension que celle de l'espace, de la haine, je serais resté là, probablement. J'aurais pas cherché à en savoir davantage quand on entend ça. C'est compliqué, en tout cas, on le sait depuis longtemps, l'inimitié entre ces deux peuples. C'est une vieille, vieille, vieille histoire. Quand je dis vieille, c'est qu'elle remonte pour eux là, siècles auparavant. Depuis des siècles, les Juifs et les Samaritains ne s'aiment pas, et c'est d'autant plus compliqué en plus que la Samarie est juste pile poil au milieu d'Israël, entre la Judée au sud, la Galilée au nord. C'est difficile de faire avec un ennemi qui vit à l'intérieur. Enfin, et pourtant, c'est comme ça depuis des siècles et des siècles. Je me rappelle vous en avoir parlé il n'y a pas si longtemps, mais avec le temps, j'ai réalisé aussi que la répétition n'était pas forcément quelque chose de négatif. Donc, je vais redire en quelques mots qu'est-ce qui a fait ces différends entre le peuple juif et samaritain, d'où ça vient, pourquoi c'est là. Parce que ça peut aussi éclairer notre lecture de d'autres textes, bien sûr des évangiles, où Jésus parle avec des samaritains, ou parle de samaritains, où les samaritains sont impliqués d'une manière ou d'une autre. Alors vous vous souvenez que les habitants de la Judée, donc Israël du Sud, sont les descendants des exilés de Babylone, attachés au culte unique de Jérusalem, et farouchement nationalistes, et méprisés donc depuis très très longtemps les Samaritains, parce qu'ils considèrent les gens du Nord, de manière plus générale, comme des païens. On va voir pourquoi. En fait, c'est parce que les Assyriens, en 722, avaient envahi le pays du Nord, l'Israël du Nord, donc la Samarie, et avaient laissé là des populations qui avaient déjà été envahies, avec leurs propres idoles, leurs propres dieux, tout ça s'est mélangé avec le peuple d'Israël. Alors les habitants du Sud voyaient ça comme une espèce d'horreur, une espèce d'idolâtrie qui était en train de se mettre en place, et on a considéré vraiment les Samaritains comme des païens. De leur côté, ceux de Samarie, donc les habitants du Nord, descendants des non-exilés, eux-mêmes qui étaient restés en Israël, se considéraient comme ceux qui avaient maintenu la vraie foi pendant tout ce temps, là, c'est un peu plus tard, ça, pendant que Babylone avait amené le peuple en exil, le peuple du Sud, et ils étaient restés attachés au mont Garizim, le culte du mont Garizim, ils avaient leur propre temple, donc on n'était pas du tout à Jérusalem là. Et ils traitaient ceux du sud d'hérétiques, ces mêmes hérétiques d'ailleurs qui avaient détruit leur temple du mont Garizim un siècle plus tôt. Donc on voit que c'est une histoire qui patine, qui se répète et qui est malsaine. Mais pour d'autres raisons, donc, cette haine était déjà bien là avant l'exil. Et aujourd'hui, les sentiments ne se sont guère améliorés pour chacun des deux groupes. L'autre est un traître, la religion de l'autre est une trahison. Alors Jésus et ses disciples sont galiléens, et bien qu'ils habitent plus loin dans le nord, ils sont donc juifs. D'ailleurs, ils sont justement en route vers Jérusalem, le centre de la foi juive. Et c'est la raison, c'est pour ça qu'il faut bien traverser la Samarie, le pays détesté. Et bon, il y a deux journées de route, il faut bien dormir, il faut bien manger. Et c'est là que tout bon juif n'aurait jamais, jamais, jamais pensé demander une seconde l'hospitalité à des Samaritains. Mais voilà, Jésus, lui, y pense et il envoie ses disciples. Alors, est-ce que ce n'est pas justement pour les affranchir de cette croyance, de la norme selon laquelle un juif et un samaritain n'ont pas de relation, la norme selon laquelle un juif et un samaritain sont censés se haïr, ne pas se parler, cette croyance idiote héritée du passé est entretenue par des générations de mépris et de distance. En y réfléchissant, on peut nous aussi se demander au passage combien aussi nos vies à nous sont peut-être bourrées de normes conscientes ou inconscientes, héritées du passé, de notre histoire, de notre culture. J'y pensais ici à Londres, en fait, et ici plus particulièrement à Soho, ça semble un terrain privilégié pour oser s'affranchir un tout petit peu de ces normes, de quelques-unes de ces normes imposées, mais notre monde, bien sûr, est encore bien loin de cet esprit d'ouverture. Bref, il me semble que l'intention de Jésus est de nous dire combien il est important pour notre liberté de savoir penser par nous-mêmes, agir par nous-mêmes, libre de ce qui fait la norme imposée par d'autres du présent ou du passé. Et d'ailleurs, si on y pense bien, c'est avec des personnes libres que le monde a changé, a évolué, a bougé, s'est déplacé, a grandi, avec des gens qui ne se sont pas sentis la pression de devoir absolument entrer dans un moule ni agir à partir d'une norme établie, à partir d'une norme arrêtée. Peut-être qu'en envoyant ses disciples chercher un hébergement chez les Samaritains, Jésus voulait briser le « c'est pas possible », cette forteresse qui était dans l'esprit des disciples, dans la tête des disciples, cette croyance idiote qui séparait les peuples depuis des siècles. Jésus, lui, n'arrive pas à mépriser bêtement ce peuple à cause d'une dispute de leurs lointains ancêtres. Et il a raison. Et l'attitude de Jésus est remarquable, après ce refus des Samaritains d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il entend ce désir de destruction des disciples, et il a proposé humblement, tranquillement, sa présence aux Samaritains. Je crois que c'était lui qui avait plus quelque chose à donner qu'à prendre des Samaritains. Ça n'a pas été accueilli, ça n'a pas été reçu. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe tranquillement son chemin, sans insister, sans commentaire, sans réaction de colère ou d'agacement, sans orgueil mal placé qui aurait été blessé, qui voudrait se venger, enfin, il n'y a rien de tout ça. Ils allèrent dans un autre village, nous dit le texte. Voilà, ça se passe très mal, mais voilà, on se déplace, on part, voilà, on n'insiste pas. Et de l'attitude colérique disproportionnée des disciples, avec lesquels on a beaucoup en commun quand même les uns et les autres, eh bien nous sommes déjà invités à méditer pour nos vies sur celles paisibles, tranquille, sereine de Jésus. Encore un mot sur ce que l'hébreu appelle un machal de Jésus, c'est-à-dire une de ces toutes courtes paraboles qui véhiculent une leçon, une vérité spirituelle pour celui qui l'entend. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Justement, quiconque veut construire quelque chose en regardant en arrière ne construit pas pour le royaume. Si tu considères ton prochain à partir de ta vie passée ou de celle de ses ancêtres, tu ne travailles pas pour agrandir le royaume, pour rendre le monde meilleur, mais pour l'appauvrir. Jésus enseigne qu'on ne peut pas être utile pour le royaume de Dieu que si on regarde, on ne peut être utile que si on regarde vers l'avant. Sinon, ce n'est pas possible. Fonctionner avec nos rétroviseurs énormes, impossible. C'est l'avenir qui est important, c'est devant nous que se tient l'avenir qui est à construire, à bâtir. Et il y a une logique là-dedans, j'y pensais aussi, parce qu'il nous dit que si nous avons au départ deux passés très opposés, on peut avoir un avenir en commun. L'inverse n'est pas possible. Donc il y a une logique en plus là-dedans. Puisqu'on doit construire est forcément en face de nous, ce qui est derrière est déjà passé, on ne peut plus rien faire pour le changer. Laissez au passé le soin du passé, semble dire Jésus. Votre vie ne sera pas jugée sur la manière dont vous serez lamenté sur le passé, mais sur la manière dont vous allez participer à la construction de l'avenir. Et bien sûr, pour permettre à ceux qui veulent le suivre de bien le comprendre, il force l'image et insiste encore davantage. Le Fils de l'homme n'a pas de maison fixe, il est toujours en marche, toujours en chemin, toujours en progrès, toujours en déplacement. Laissez les morts enterrer leurs morts et vous avancez pour annoncer le royaume. Qu'y a-t-il d'aussi fort et scandaleux que cette idée de laisser nos morts s'enterrer eux-mêmes ? Abandonner nos morts. Une parole forte, mais alors pour une idée forte. Comme en leur demandant quelque chose d'aussi impossible que d'aller réclamer l'hospitalité chez les Samaritains. C'était cette forteresse absolument impossible à traverser. Et on en a probablement des centaines de forteresses comme ça qui nous empêchent de devenir ou de progresser, de devenir ce que nous sommes ou ce que nous pourrions être, et parce que nous sommes enfermés dans nos forteresses du passé. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'aussi énorme que de laisser leurs morts s'enterrer tout seul ? Jésus cherche, je crois là, avec ces images fortes, à faire sauter tous les verrous spirituels qui tiennent justement ses disciples enfermés. Et c'est pour ça qu'il les envoie probablement en premier. Les Samaritains ne seraient jamais venus demander quelque chose aux Juifs. Donc, il y a un proverbe chinois, je crois, qui dit « Si la haine répond à la haine par la haine, comment la haine finira-t-elle » Il faut bien qu'il y ait une rupture quelque part. Et là, c'est Jésus qui la provoque et qui envoie ses disciples. C'est un essai, puisque ça ne marche pas. Probablement qu'il le savait, en plus, que ça n'allait pas marcher. Mais ce qui était important, c'était que ça brise quelque chose dans cette forteresse chez les disciples. Bref, dans notre passage, ce matin, Jésus cherche à faire avancer ceux qui veulent le suivre et l'écouter dans une plus grande autonomie. Et avec eux, c'est bien sûr chacun, chacune d'entre nous qu'il appelle à cette liberté et à cette espérance. Comme il envoie ses disciples chercher asile auprès des Samaritains pour les encourager à être donc les premiers à rompre le mépris et la distance, le silence, il saura par son esprit demain nous confronter, nous, à la montagne à laquelle nous devons renoncer si nous voulons avancer, nous, libres et heureux. Alors, saurons-nous entendre sa voix, son appel ? Saurons-nous nous remettre en route avec lui vers le royaume de Dieu, ce royaume qui se cherche vers l'avenir sans jamais se laisser appesantir ou retenir dans le présent ou dans le passé ? Ce sont là les questions que notre passage de ce matin laisse à notre méditation et que je laisse moi-même maintenant à votre réflexion. Amen.